Y aquí viene Sir Armin.
Prions. Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur, que tu ne cesses de témoigner dans notre vie. Tu as été avec tout un chacun de nous, Seigneur, dans tout ce que nous avons pu faire comme activité, Seigneur. Ta main puissante veillait sur nous. C'est pourquoi il t'a plu encore, éternel Dieu, qu'en ce moment, nous puissions encore nous retrouver devant toi, devant cette table, éternel Dieu, que toi, tu nous prépares chaque soir. Nous venons, Seigneur, implorer ta présence, qu'elle soit manifeste, ô Dieu des grâces. Nous venons prier aussi pour ton instrument que tu vas utiliser, Seigneur, pour la modération de ce soir. Oins-le de ton esprit, Seigneur, afin que tout ce qu'il va dire, éternel Dieu, que cela soit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Toi qui es Dieu trois fois saint, tu voudrais c'est que ceux qui s'avancent vers toi s'avancent dans l'humilité, dans la sincérité de cœur et d'esprit. Nous nous recommandons à toi, notre Père et notre Dieu. Nous implorons ton sang qu'il soit aspergé dans tout un chacun de nous, dans chaque maison connectée, même dans ces maisons où ceux-là qui vont encore nous suivre, Seigneur, en direct, entre tes saintes, ô Dieu, que ta présence soit manifeste. Nous recommandons toutes choses sous ta grâce, ô éternel et Dieu. Toi qui es le commencement, le cheminement et la fin de toutes choses, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Qu'elle soit manifeste et qu'elle dirige toutes choses. Et que tout cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous venons ici de prier. Amen.
Amen. Frères et sœurs, l'étude biblique de ce soir, le texte est dans Genèse chapitre 38, 1 à 11. Donc, je vais demander au pasteur José des États-Unis s'il est avec nous de lire le texte.
Je suis avec vous.
Lisez le texte.
Judas et Tamar. À cette époque, Judas quitta ses frères et se rendit à Adullam chez un nommé Hira. Là, il aperçut la fille d'un certain Shua, un Cananéen. Il en fit sa femme. De son union avec lui, elle devint enceinte et mit au monde un fils que Judas appela Er. Cette femme eut un autre fils. Elle l'appela Onan, puis un autre encore, qu'elle appela Shéla. Judas était à Kézib au moment de cette naissance. Judas maria son fils aîné, Er, à une femme nommée Tamar. Er déplut tellement au Seigneur que celui-ci le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, tu connais ton devoir de proche parent du mort. Tu dois donner une descendance à ton frère. Épouse donc sa veuve. Mais Onan savait que l'enfant ne serait pas considéré comme le sien. C'est pourquoi chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour ne pas donner d'enfant à son frère. Cette conduite déplut au Seigneur qui le fit mourir lui aussi. Judas dit alors à sa belle-fille Tamar, « Puisque tu es veuve, va habiter chez ton père en attendant que mon fils Shéla soit devenu adulte. Il se disait en effet, il ne faut pas que Shéla meure lui aussi comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Amen.
Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Donc, le texte parle de Juda, qui est le quatrième fils de Jacob. C'est quand on dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda, c'est ce Juda ici qui est donc le chef de la tribu de Juda. Il est aussi ancêtre de Jésus-Christ sur la nature, côté naturel, mais comment le Seigneur est venu par Abraham, Isaac, Jacob. Ensuite, dans la maison de Jacob, c'est ce Juda ici, et il y aura Pérez qui va naître ensuite, et la descendance va continuer. Donc, nous avons affaire à un Juda qui a d'abord facilité la vente de Jacob au prix d'argent, et maintenant ici, il gère un dossier où il est censé donner son troisième fils choix quand il a grandi à sa belle-sœur, mais il craint que son enfant meure aussi, puisqu'il se retranche de sa famille, il va chez des étrangers, et là, il a fait donc ses enfants, ces trois garçons. Le premier est méchant, Dieu le tue, et le deuxième, il ne veut pas donner des enfants à sa belle-sœur, selon la loi de Dieu, en Deutéronome 25, 5 à 10, quand quelqu'un mourait sans laisser les enfants, cette femme-là, son beau-frère, devait l'épouser pour que il lui donnât l'enfant qui va hériter donc du côté de son père et prendre soin de la veuve dans ses vieux jours. C'est ça la loi de Dieu. Mais ces garçons, Nan, refusent de faire ça. Et donc Dieu le tue aussi. Et Juda a peur que son troisième fils puisse mourir encore sur cette femme. Alors il craint et il la fait partir pour vivre avec une promesse de lui donner cet enfant, mais il ne va pas le faire. Voilà donc le texte. Comme dans mon ordinateur, je n'arrive pas à accéder à l'email, disons, au link qui d'habitude me donne accès à diriger la réunion, je vais donner au pasteur Célestin donc de continuer l'étude et je veux seulement participer.
Oui, merci, frère Thomas, pour l'introduction. Voilà, frères et sœurs, avec cette brève introduction, nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons commencer notre étude. Allons-y, verset par verset. On n'en a que 11, donc nous commençons avec le pasteur José des États-Unis. Tu as la parole, s'il te plaît.
Merci beaucoup, frère, pour la parole. Bien-aimé, je suis au verset premier. Le modérateur a bien introduit le sujet, mais quand même je reviens sur cet homme, Juda. Juda, c'est comme le frère l'a rappelé, Juda est celui qui a proposé la mise en vente de son frère. Son frère, à ses yeux, à ces moments-là, c'était un objet à vendre. C'était un objet, il l'a vendu. Les autres frères ont appuyé sa proposition. Et tous, pour justifier ce forfait, se sont mis d'accord pour tuer une bête, une chèvre et plonger la tunique multicolore de leur frère pour l'envoyer chez leur papa, sans même préciser qu'il s'agit de la tunique de Joseph, mais que le papa devine si elle, si cette tunique n'est pas celui de son frère. Voilà. Et ce qu'ils ont fait reste dans le cœur de chacun. Papa pleure, continue à pleurer. Le vendeur, celui qui a proposé, il est là. Tous les autres sont là, ils voient leur père dans cet état. Oui. Judas ne peut que se soustraire comme il l'a fait, parce que cette ambiance-là revenait toujours dans sa pour remémorer l'histoire malheureuse de son frère. Bien-aimé, oui, nous ne voyons pas clairement la raison qui l'a fait sortir de la maison, mais Judas, il quitte ses frères. Il va ailleurs, dans un autre pays. Ils sont au Canaan, mais il va dans une autre maison. Il reste là-bas, il se marie. Donc, il se soustrait de cette manière. Et c'est vraiment une manière voulue par le Seigneur. Voilà, bien-aimé, lorsque nous posons des actes, nous devons toujours réfléchir, parce que nous ne savons pas si nous sommes sur la voie du Seigneur ou pas, si c'est seulement par nous-mêmes que nous sommes en train de faire ce que nous sommes, ce que nous faisons. Voilà, c'est une question qui s'adresse à nous tous pour se conduire comme le Seigneur le veut. Merci.
Oui, merci Papa José. C'est pendant cette période-là de deuil que Judas va se soustraire à ses frères. Il va se retirer dans une autre famille, chez un nommé Ira. Rappelons-nous que au verset 34 du chapitre précédent, nous allons voir Jacob qui va déchirer ses vêtements. Il déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Alors, chaque fois que Jacob était en deuil et les autres enfants qui voyaient le deuil, je ne pense pas que humainement ils pouvaient se sentir à l'aise. Ils pouvaient se sentir vraiment bien dans cette vraiment famille où on voit comment le père continue à pleurer chaque jour et en se disant, voilà, nous sommes la cause de tout ceci. Alors il va carrément dire, non, je vais quitter. Il va quitter, il va aller s'installer ailleurs. Merci, Papa José. Au chapitre, au verset 2 plutôt, là, Judas, il va voir la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il a pris pour femme et alla vers elle. Donc, voilà la conséquence de s'écarter des siens. Il va aller s'unir à la Cananéenne dont ses grands-pères, même son père, ne pouvait pas faire, ne pouvait pas accepter de tels liens, de telles alliances. Alors là, encore là, Judas est en train de nous montrer un exemple à ne pas suivre, d'aller faire l'alliance avec les gens qui ont leur Dieu, qui ont leur coutume, qui ont leur façon de faire. Là, c'est encore un exemple à ne pas suivre que Judas est en train de nous montrer. Donc, si vous venez de vous joindre à la radio ou même sur le plateau, nous sommes en Genèse, au chapitre 30, du premier verset jusqu'au verset 11e. Voilà. Je ne vois toujours pas de demande de parole.
Frère, oui.
Oui, papa José, tu peux parler. Je ne vois pas une autre demande à présent. Tu peux aller.
Oui. Merci. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Le verset 3 et 4 nous parle des naissances des enfants dans l'union de Judas avec la Cananéenne. Il y a d'abord un garçon qui reçoit de Judas le nom de Er. Et ensuite, un deuxième garçon qui reçoit de la maman le nom de Onan. Et ensuite, le troisième, un fils qui reçoit le nom de la femme, de la maman, toujours cette fois-ci, le garçon s'appelle Sheila. Donc, trois garçons qui sont nés dans cette union-là, nous pouvons dire que c'est une bénédiction. Une bénédiction triple, d'ailleurs, de garçons qui naissent comme ça, font la joie de la famille. Font la joie de la famille. Et nous verrons comment ces gens, ces trois garçons, vivront. Mais déjà ici, nous disons que, bon, Dieu a permis qu'il y ait des naissances là-bas. Et notre Dieu, pour nous, aujourd'hui, notre Dieu, comme nous avons vu avec Esaü, il bénit, même si on n'est pas sur sa voie, sur sa volonté. Mais il bénit parce que il est Dieu, il est amour, il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Et c'est Dieu qui se manifeste ici. Il accepte et il donne des enfants. Voilà. Nous Dieu généreux qui fait tout ce qu'il veut. Et c'est à nous, à chacun maintenant, de voir qui est ce donateur. Qui est ce donateur généreux qui nous donne la vie de cette manière. Que chacun puisse tourner ses yeux vers ces dieux, mais nous verrons si vraiment ils tourneront leurs yeux. Merci.
Oui, merci papa José. Nous voyons les naissances qui viennent de cette union entre un fils d'Israël et la Cananéenne, trois enfants, Er, ensuite Ona, et le troisième, Sheila. Mais nous étions habitués avec le fils d'Israël, chacun avait son nom et la signification du nom. Ici, nous ne voyons aucune signification. Là, nous commençons à voir les conséquences d'aller en dehors, d'aller épouser une païenne. Voilà, merci. Et pasteur Richard, tu as la parole.
Merci beaucoup, papa, pasteur Célestin, pour la parole. Toujours dans le verset 3, 4, jusqu'à 5 aussi, nous voyons ici, quand on tombe dans le péché, la tendance est d'aller plus loin, le plus vite possible. L'ennemi ne permet pas seulement que ce soit des relations, et il y a les naissances qui viennent. Et nous voyons maintenant, quand les naissances viennent, quelque part, il y a, donc ce sont des liens qui renforcent les relations avec le chemin du péché. Et ici, donc, nous voyons que dès qu'il se marie, il y a déjà une succession des enfants. Donc, nous devons veiller à, à cette pente du péché. Les pentes du péché multiplient beaucoup de liens. L'ennemi nous lance juste une corde. Et dès que nous prenons la maison, il y a une multitude de choses. Parce que quand l'enfant arrive, et donc il y a beaucoup plus de raisons d'y rester que si l'enfant n'était pas encore là. Donc ne donnons pas à l'ennemi le premier pas, parce que le deuxième, le troisième vont venir vraiment vite et ça rend la situation encore beaucoup plus compliquée. Merci.
Oui, merci Papa Richard. Nous voyons encore là la conséquence du péché qui attire beaucoup, beaucoup de problèmes après. Merci beaucoup. Nous continuons, frères et sœurs. Nous sommes déjà au verset 6. Et là, nous voyons Judas qui va marier son fils aîné et son premier-né à une femme toujours parmi les Cananéennes. Il va marier son fils aîné à une certaine femme qui s'appelle Tamar. Et Tamar, là, on pouvait peut-être penser que Judas allait suivre l'exemple de son arrière-grand-père Abraham ou même Jacob pour dire non, il ne faut pas, j'ai épousé votre mère, mais vous, il ne faut pas épouser dans cette région à cause des coutumes, à cause de ceci. Non, mais il va prendre aussi une femme comme lui, toujours dans la contrée, Tamar. Et nous sommes en train de voir un exemple à ne pas suivre qui se multiplie dans le de Judas. Et les conséquences vont être vraiment là parce que Dieu ne leur a pas permis d'aller en dehors pour aller épouser les femmes chez les étrangères. Voilà, nous continuons. Là, je vois encore une main. Deux mains maintenant, et j'encourage les autres de parler pour vraiment nous enrichir mutuellement. Je reviens encore au pasteur José, ensuite ce sera le pasteur Richard.
Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimé, je suis au verset suivant, le 6e. Elle déplut tellement au Seigneur que celui-ci le fit mourir. Ici, on ne nous donne pas le motif de cette rébellion que le Seigneur a remarqué, cette méchanceté que le Seigneur a trouvé en lui, mais il est Dieu, comme il est Dieu, comme il connaît tout, comme il est souverain. Il a vu que R ne faisait pas quelque chose qui donne plaisir à Dieu. Le Seigneur a vu ça et il ne se trompe pas. Il a vu que ce garçon est vraiment mauvais. Il est méchant. Il ne mérite pas la vie. Il mérite la mort. Et il a fait mourir. Parce que c'est Dieu qui peut l'interroger, qui peut lui poser la question. Bien-aimé, ce Dieu-là, c'est le même que nous adorons aujourd'hui. C'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est notre Dieu aujourd'hui. Alors, bien-aimé, ce verset nous montre que ce Dieu-là, on ne peut pas le tromper et il ne peut pas se tromper. Par conséquent, nous devons vraiment lui obéir, respecter sa loi. Bien sûr, humainement parlant, nous ne pouvons pas être corrects à ses yeux, mais tant sur sa grâce, sur son amour, à travers son Fils Jésus-Christ. Donc, nous devons le respecter, lui obéir, faire ce qu'il nous demande. Merci.
Merci, Papa José. Il reste souverain et il sait voir plus loin que les hommes, que même Judas ne comprenait vraiment pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de ses enfants. Merci, et Papa Richard, tu as encore la parole.
Merci, Papa Pasteur Célestin, pour la parole. Le verset 8, nous voyons ici Judas qui veut utiliser la loi dans un pays étranger. Dans cette loi qui se faisait chez lui, je vais utiliser le camp des enfants de Dieu, une culture que Dieu a donnée. Et dans la désobéissance, il demande qu'on utilise, que son enfant, on a pu prendre la femme, la femme laissée par son frère. Donc ce qui m'interpelle ici, ce n'est pas dans la désobéissance que je vais appliquer les principes bibliques et s'attendre à un bon résultat. Quand je suis dans le péché, le Seigneur veut que je puisse sortir du péché. Et nous nous souvenons quand le peuple d'Israël était en Babylone, les Babyloniens leur ont demandé, « Pouvez-vous nous chanter votre cantique ?» Ils ont déclaré que nous ne pouvons pas chanter le cantique de l'Éternel dans un pays étranger. Et ici, nous ne pouvons pas appliquer les principes bibliques pendant que nous vivons encore dans le péché, s'attendant que Dieu va répondre. C'était un avertissement pour moi, du moins pendant la méditation de ces versets. Merci.
Oui, merci, Papa Richard. Il va appliquer la loi. Cette loi que les enfants d'Israël appelaient sous le nom de Lévira, il va l'appliquer sur dans une terre étrangère, en croyant, mais étant lui-même dans la désobéissance, il va voir qu'appliquer la loi, ça ne va pas être facile. Donc ça va se compliquer. Merci, merci beaucoup. Papa Gaston, tu as la parole, s'il te plaît.
Merci, pasteur. Je reviens au verset 7. Un était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Je suis interpellé ici parce que, en voyant ce que les enfants de Jacob ont fait à leurs frères, c'est mauvais, c'est de la méchanceté. L'Éternel ne les fit pas mourir. Ici, on ne décrit pas ce qu'Er a fait, mais aux yeux de l'Éternel, c'était méchant, c'était mauvais, et l'Éternel les fit mourir. Je dois veiller et ne pas imiter tout ce qui est mauvais autour de moi. Même si je ne vois pas les conséquences immédiates de cette méchanceté-là, Dieu, lui, il voit tout. Il est souverain, il fait mourir qui il veut et il laisse en vie qui il veut. Et je ne dois pas suivre cet exemple-là. Et ensuite, je vois ici les rôles en tant que parent. Cet enfant se comportait très mal. Est-ce que j'ai vu l'exemple de Job? Pourquoi il demandait pardon de tous ses enfants? Je dois intercéder. quand mes enfants sortent, là où ils sont, je ne sais pas ce que, quoi ils font, comment ils marchent avec l'Éternel, Dieu des armées. Peut-être ce qu'ils font, c'est méchant devant l'Éternel. Et je dois, en tant que papa, sans cesse intercéder en faveur de mes enfants, de demander pardon auprès de Dieu, afin qu'ils ne puissent pas s'écarter de la bonne voie, même s'ils se sont écartés, que la miséricorde de Dieu soit sur mes enfants. C'est ce qui m'a beaucoup interpellé, parce que peut-être que Judas lui-même ne voyait pas ce que l'enfant avait fait de mal, mais l'Éternel, à ses yeux, c'était très mauvais, et il les fit mourir. Amen.
Amen. Il reste souverain, ce Dieu, même dans une terre étrangère, ce Dieu reste à côté des enfants, d'un des enfants d'Israël qui s'est écarté, mais il fait tuer son aîné parce qu'il fait du mal aux yeux de l'Éternel. Et nous devons veiller sur nos enfants, prier pour eux, pour que la situation ne dégénère pas comme ce premier-né de Judas. Merci. Et papa Thomas, tu as la parole, s'il te plaît.
Moi, je voudrais parler du verset 7, lorsque je vois que Dieu a donc fait mourir, il a tué le garçon ici, R, mais aussi l'autre garçon qui devait remplacer son frère, lui aussi, choix, il meurt aussi à ce qu'il a fait. Mais c'est Dieu, je constate que, comme le pasteur José des États-Unis a dit, c'est Dieu qui a donné la naissance de ces trois enfants à Judas. Mais c'est aussi Dieu qui détermine qu'ils vont mourir, puisque ce qu'ils avaient fait n'était pas bon. Au verset 10, l'Éternel fait aussi mourir ce garçon. Donc, je constate que quelque chose de simple que nous sommes censés connaître, mais parfois on oublie que la vie nous est donnée par Dieu, mais aussi Dieu peut tuer quelqu'un. Jésus a dit, ne craignez pas seulement le roi comme ça qui peut tuer quelqu'un parce qu'il est dictateur. Je veux vous dire qui craindre. Craignez Dieu. Il peut tuer quelqu'un et l'envoyer en enfer. Et personne ne peut lui dire de ne pas le faire. Donc, je constate, le texte d'aujourd'hui nous proposait une des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que ce texte m'apprend de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Je constate que Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, a le pouvoir de me donner la vie et le pouvoir de l'enlever. Et je n'y peux rien. Donc, je voudrais vivre pour Dieu, pour le reste de ma vie, parce que c'est son jugement, finalement, qui détermine la destination de ma vie. J'ai intérêt à plaire à ce Dieu, parce que ces deux garçons, il les a tués parce qu'ils étaient mauvais à ses yeux. Merci.
Merci, papa Thomas. Craignons Dieu, qui peut donner la vie et qui peut aussi la retirer. Il n'a des conseils à demander à personne. Merci beaucoup. Papa José des États-Unis, tu as la parole, s'il te plaît.
Oui, merci beaucoup, frère. J'aimerais revenir sur ce qui est dit au verset 8. Le papa rappelle au garçon, au nom, ce qu'il sait déjà, qu'il connaît ton devoir de proche parent, ainsi de suite. Et ce que ce papa dit à son fils ici, se disait, se pratiquait dans le Proche-Orient à ce moment-là. À ce moment-là, la loi de Moïse n'est pas encore donnée parce que nous sommes toujours avec Jacob qui est encore à Canaan. Il n'est pas encore parti en Égypte, rester là-bas, mourir là-bas, jusqu'à ce que Moïse naisse. Non, pas encore. Nous sommes encore au début. Nous sommes encore au début. Mais ce que Dieu, ce que Judas dit à son fils ici, c'est une intuition que le Seigneur avait donné au peuple à ce moment-là. Même les non-juifs, ils pratiquaient ça aussi. Et Dieu a appuyé ça. Parce que cette pratique faisait que l'enfant qui meurt, que son nom ne puisse pas s'effacer de la famille. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que cet enfant, le premier qui naîtra, va s'occuper de sa maman, la veuve, à ce moment-là. Donc, Dieu a mis aussi certaines choses bonnes dans nos vies, dans la vie des hommes qui les pratiquent sans savoir que cela vient. Il vient de Dieu. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Donc, bien aimé, c'est quelque chose de frappant de voir que ce que Judas dit ici correspond à ce que Dieu dira d'une façon officielle plusieurs années plus tard. Merci.
Oui, merci. C'est la loi. Elle est appliquée même dans la famille de Judas qui n'est pas parmi les siens. Mais quand il fait ce qui est mauvais au nom, il est aussi frappé. La semence en ce moment-là était prévue pour la reproduction, mais pas pour le gaspillage comme Onan est en train de faire. Au verset 10, il va aussi subir. Il va mourir. Aujourd'hui encore, ce genre de pratiques sont beaucoup pratiquées parmi les païens, parmi les chrétiens, avec des masturbations, avec toutes sortes de pratiques, mais c'est pas permis, c'est pas accepté par Dieu. Merci. Nous donnons la parole au pasteur Richard Stepin.
Merci beaucoup, papa, pasteur Célestin, encore pour la parole. J'étais en train de réfléchir. La parole de Dieu nous dit les enfants sont une bénédiction pour de qui vient de la part de Dieu. M'écoutez?
Oui.
Ok, j'attendais le bruit dans mon appareil là. Ok, merci. Je disais que les enfants sont une bénédiction. Si je vois l'amour de Dieu pour Judas, Dieu qui, quand vous voyez, Dieu prend tout son temps, il permet le premier-né est né, le deuxième, le troisième, il grandit, il se marie, il meurt, Dieu tue le premier, Dieu tue le deuxième. Et nous voyons maintenant pour la troisième, Judas commence à comprendre qu'il y a un danger pour mon enfant. Dieu prend son temps pour attirer mon attention. Cela ne veut pas dire que je vais continuer à vivre dans l'incrédulité, parce que Dieu démontre son amour et que quand je vais demeurer incrédule, c'est alors que je vais payer le prix. Ici, l'amour que Dieu a pour Judas, Dieu continue, il a permis à deux enfants de mourir. C'était plusieurs années et la main de Dieu était là dans sa vie. son amour était manifesté. J'ai revoyé combien de fois j'ai péché. Donc Dieu de fait me tuer aussi. Je ne pense pas que je suis plus juste que R. Je ne sais pas, la Bible ne dit pas ce que R a fait. Du moins quand nous voyons l'acte que l'autre, du moins le deuxième enfant a fait, nous avions commis des péchés plus graves que ça, humainement parlant. Mais la bonté de Dieu, qui est là pour nous, il nous a amenés petit à petit, et aujourd'hui, j'ai trouvé le Seigneur. Quel amour! Cet amour, en tout cas, m'interpelle dans au point où, comme si Dieu s'en fout des deux enfants-là, aussi longtemps qu'il manifeste son amour pour Judas. Dieu s'en fout de tout ce qui s'est passé dans ma vie parce que son amour était sur moi. Ça m'interpelle beaucoup. Merci.
Oui, merci beaucoup de souligner cela, Papa Richard. C'est vraiment un grand amour pour chacun et chacune d'entre nous. Ce Dieu d'amour, des fois, il se comporte comme un Dieu méchant, comme un Dieu jaloux vis-à-vis du péché, vis-à-vis de la désobéissance. Mais il reste un Dieu souverain, il sait ce qu'il fait, il n'a de conseils à recevoir de personne. Mais il reste un Dieu d'amour. Merci beaucoup, Papa Thomas. Tu as encore la parole, s'il te plaît.
Bien aimé, au verset 9, ce monsieur Onan est appelé à donner la descendance à son frère. Mais bien qu'il prend la femme, et le but de faire l'acte sexuel avec cette femme, c'est pour qu'il y ait une naissance. L'acte, il le fait, mais ce qui fait donner la naissance, il ne le fait pas. Et c'est dans le noir. Les gens qui font l'amour comme ça, même dans le foyer, c'est en cachette, c'est un acte secret. On aurait pensé que Dieu ne fasse pas attention à un détail d'un acte sexuel comme celui-ci. On aurait pensé que ça passait inaperçu. Donc le garçon se disait, je fais l'amour à cette femme, on saurait que s'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant parce que bon, je l'ai prise comme elle me l'a dit. S'il n'y avait pas d'enfant et qu'il faisait l'amour avec cette femme, tout le monde aurait, personne n'aurait dit que c'est ça qui s'est passé. La femme le savait, lui le savait, mais il y a une troisième personne qui le savait. C'était Dieu. Et Dieu a trouvé que c'est mauvais, il va le tuer. Je commence à me dire que même mon comportement vis-à-vis du sexe, c'est-à-dire la pornographie, c'est-à-dire le lust, je ne sais pas comment dire ça en français, la convoitise des yeux vis-à-vis d'une femme qui passe, ou je ne sais pas quel autre comportement, comment je traite ma femme à la maison, comment je traite mon enfant ou quelqu'un qui travaille pour moi, ou je ne sais pas quoi. Je trouve que ma vie, elle est exposée à Dieu. Même les choses les plus secrètes, finalement je vois Hébreux 4, 13, que rien n'est caché à ses yeux, tout est à nu, lui à qui je dois rendre compte. Je trouve qu'il n'y a rien qui échappe à ce Dieu qui m'a créé. Donc, je dois être sérieux dans ce que je veux, même dans ma vie la plus privée. Merci.
Très profond, Papa Thomas. Même dans le secret, même dans la vie la plus privée, Dieu est là et Dieu voit. Des choses que nous pouvons faire dans le noir, en tant que fils et fille de Dieu, nous pensons que Dieu est absent, mais Dieu est en train de voir ce que nous sommes en train de faire, même dans le secret le plus profond. Merci beaucoup. Le deuxième fils est mort, mais le verset 11 nous montre que Judas va nécessairement dire à sa belle-fille de rentrer dans sa maison. Et le texte nous montre que Judas avait peur que quand ce fils va grandir, en lui donnant encore Tamar, il peut aussi mourir. Et Judas est en train de penser à ce que lui, il risque de rester sans progéniture. Judas est en train de faire déjà des calculs. Des calculs pour sa progéniture, des calculs pour dire, mais si le dernier s'y meurt, moi je vais rester sans progéniture. Et ces calculs, nous allons voir ça demain, vont être des faux calculs. Parce que la progéniture, la même Tamar, quand nous regardons, nous voyons Tamar qui est citée parmi les ancêtres, la descendance de notre Seigneur Jésus. Et même les enfants qui vont donner la progéniture, les noms de notre Seigneur Jésus, c'est pas Sheila. Et nous allons le méditer demain. Merci, papa José, et tu as la parole.
Oui, j'ai voulu juste revenir un peu à ce que disait le frère Thomas, revenir dans le sens de continuer toujours dans le même sens. Parce que dans cet acte-là que posait Onan, il y avait deux personnes qui étaient négligées. Il y avait le Seigneur. Parce que le Seigneur, en donnant à l'homme la sémence, c'est pour reproduire. C'est pour que la population continue. Mais si maintenant, on refuse de suivre ce que Dieu a dit, c'est comme si on méprisait le Seigneur. Et c'est pour cette raison que cette conséquence est arrivée. Deuxième personne, c'est la femme. Le frère a bien dit, la femme savait que le monsieur ne veut pas que j'aie un enfant, puisque chaque fois, il fait par terre, il jette. Alors, son cœur, le cœur de la femme était meurtri. La femme, vraiment, était une personne qui était négligée, qui était bafouée. Chaque nuit, elle est toujours dans cet état. Chaque nuit, elle est toujours dans cet état. Et le Seigneur, nous savons, il est derrière les faibles. Il est derrière les faibles pour les secourir, pour les défendre. Pour les défendre. Le Seigneur a défendu cette femme. Il est le défenseur de faibles, le Seigneur. Aujourd'hui aussi, le Seigneur défend les faibles. Et si nous sommes là pour maltraiter le faible, nous sommes contre le Seigneur. Et le Seigneur peut agir. Merci.
Merci. Maîtriser, mépriser, meurtrir cette femme. Et le Seigneur va vraiment la défendre en frappant très très fort. Même pas en cherchant la correction, mais en faisant carrément mourir Onan. Voilà comment le Seigneur défend les siens qui sont méprisés, qui sont vraiment détruits par ceux qui sont plus grands et plus forts. Nous allons terminer ce soir avec Papa Thomas. Tu as la parole et puis nous allons conclure.
Oui, bien-aimé, au dernier verset 11, la pauvre Tamar est renvoyée dans sa maison parce que, comme le pasteur Célestin l'a dit, le patron Judas, il a décidé comme ça, il craint pour son fils. C'est l'avenir de son fils. C'est l'avenir, la progéniture de son nom qu'il voit en danger. Mais la Bible nous dit que c'est possible de nous sécuriser un avenir. La Bible nous dit que si nous méditons la parole jour et nuit comme nous le faisons au fumet, la Bible nous dit que nous allons nous garantir un avenir prospère. La Bible dit tout ce que nous allons faire va nous réussir si nous méditons cette parole jour et nuit et nous l'appliquons. La Bible va dire à Josué aussi la même chose au chapitre 1er, que si cette parole, il la médite jour et nuit, et elle ne s'éloigne pas de sa bouche, il va avoir du succès, il va avoir de la réussite, un avenir assuré. Donc c'est possible de s'assurer un avenir dans la parole. Le Seigneur a dit à Satan, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je suis heureux ce soir d'être membre au FUMES où chaque jour je médite le matin, je viens le soir, je partage avec mes frères et cette parole à la vie de Dieu, ça me rassure le lendemain. C'est plus sûr que la sécurité que Jida cherche ici dans les tactiques de faire partir cette femme et ne pas obéir à Dieu. Merci.
Merci beaucoup, Papa Teman. C'est par là que nous allons arrêter avec les commentaires pour ce soir. Ce que Judas est en train de faire ici, c'est tout simplement de la ruse. Ce qu'il fait, ce n'est pas ce qu'il dit à cette femme, Tamar, ce n'est pas de la réalité. Donc, il lui dit autre chose, mais dans son cœur, ce qu'il a, c'est la crainte. C'est les calculs déjà qui se font pour sa progéniture, pour son avenir. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne manière de vivre avec des ruses. On ne veut pas dire la vérité à son prochain. On ne veut pas dire la vérité à sa femme. On ne veut pas dire la vérité à son mari. On vit avec des ruses, avec des cache-cache. Ça, c'est pas bon et c'est pas permis par le Seigneur. Frères et sœurs, nous avons été ce soir beaucoup béni par ce déplacement. Judas qui va s'éloigner de ses frères. En ce moment-là, le texte commence par « en ce moment-là ». C'est au moment du deuil. C'est le moment où Jacob pleure. C'est le moment où Jacob est dans un deuil prolongé. Alors les enfants de Jacob sont en train de se demander « mais quel est ce deuil-là qui ne se termine pas pour qu'on vive en paix dans cette maison ?» Alors, Judas trouve, moi je pars. Et là, il part, il va faire sa vie ailleurs. Mais ce qui est important, frères et sœurs, dans notre texte, nous allons voir le premier fils de Judas, c'est le Seigneur qui va le frapper. Le deuxième fils, c'est le Seigneur qui va le frapper. Il est en dehors de la famille d'Israël, mais le Seigneur ne l'a pas laissé, ne l'a pas lâché. Pour dire, quand nous avons aussi nos enfants, partout où ils sont, si nous les avons éduqués dans la voie du Seigneur, le Seigneur est avec eux aussi, partout où ils sont. Nous devons continuer, comme le frère Gaston nous disait, l'intercession pour les enfants, pour qu'ils se comportent bien, parce que nous servons un Dieu jaloux, nous servons un Dieu saint. Judas, c'est quatrième fils, les trois premiers ont déjà désobéi à Israël. L'aîné est monté sur le lit de son père avec l'une de ses concubines. Alors là, il est déjà disqualifié. Les deux autres ont fait un acte que Israël n'a pas accepté. Les deux suivants. Le quatrième a l'air d'être et va même l'être celui dont la continuité d'Israël va se perpétuer. Et c'est Judas. Alors Israël va voir ses fils sur qui il a les yeux braqués, qui va encore sortir de la maison. Mais même s'il sort de la maison, Dieu, lui, ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas abandonné. J'aimerais, pour conclure, nous lire un verset, parce que le nom de Tamar est cité dans notre texte. Matthieu, au chapitre 1er, le verset 3. Nous allons voir que Judas va engendrer de Tamar, la même Tamar, il va engendrer de Tamar Pérez, et Pérez va engendrer Zéra. Tout cela, c'est la généalogie de notre Seigneur Jésus. Un homme qui est sorti en dehors de sa famille, mais qui va perpétuer la généalogie de notre Seigneur Jésus. Quelle pédagogie pour notre Dieu! Pour dire que Dieu, il peut prendre du néant ce que les hommes considèrent comme le plus mauvais et le rendre son grand serviteur. Voilà le Dieu que nous servons.
Amen.
C'est Dieu que nous servons. Tamar, Judas va faire des calculs. Mais ça, ce sont des calculs humains. Des fois, nous faisons trop de calculs humains qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Nous devons réellement nous confier à Dieu, comme notre frère Thomas nous disait, investissons-nous dans la parole. C'est là que nous allons sécuriser nos plans. C'est là que nous allons sécuriser notre avenir. Et même là, la progéniture va être sécurisée dans la parole. Voilà, nous nous arrêtons là, frères et sœurs. Un texte court, mais extrêmement riche. Et nous allons voir la suite demain. Va encore nous enrichir davantage. Comment est-ce que Dieu a de l'humour dans ce qu'il fait? Capable de prendre vraiment du néant pour réellement faire des géants pour son œuvre, pour son travail. Annonce, nous saluons les frères et sœurs qui sont à North Carolina, au Québec, en Alberta, qui sont en train d'être enrichis avec nous à la radio, avec la méditation. Soyez bénis là où vous êtes. Deuxième annonce, si vous avez été habitué, là c'est valable pour les frères et sœurs et de l'Europe et de l'Amérique du Nord, ou même tous ceux qui nous suivent à travers le monde qui recevaient les emails avec les méditations enregistrées, les mêmes méditations sont dans notre site www.fimes.info. Vous allez dans le menu, vous commencez du côté de l'accueil, vous allez sur médias. Dès que vous mettez le curseur sur médias, vous allez voir audio. Vous mettez le curseur sur audio, vous allez du côté méditation, vous cliquez sur méditation. Toutes les méditations enregistrées sont là et vous pouvez les suivre à votre aise. Papa Thomas, après la méditation, je vais t'appeler.
Oui.
Merci. Donc, nous nous arrêtons là, frères et sœurs. Le texte de demain, c'est la suite de Genèse 38, du verset 12 jusqu'au verset 30, jusqu'à la fin. Nous allons voir la suite qui est encore très, très riche. Je vous dis, vraiment ne ratez pas la méditation de demain. Elle sera encore très riche. Jetez un coup d'œil, c'est jusqu'au verset 30. OK. Voilà, nous nous arrêtons là. Papa Thomas, tu peux clôturer par la prière, s'il te plaît.
Tendre Père, merci de cette direction que la méditation a prise. Le pasteur Célestin n'était pas préparé à la diriger, mais nous avons vu que tu nous as conduits par le Saint-Esprit de manière que on a eu ce que tu voulais nous dire. Tendre Père, nous constatons que dans le texte, tu veux que nous puissions être des intercesseurs à nos enfants. Tu veux que nous soyons, Seigneur, des enseignants à nos enfants de la parole de Dieu. Tu veux que nous ne nous éloignions pas, Seigneur Dieu, de la terre promise, de la terre, c'est-à-dire la famille de Dieu. Tu ne veux pas que nous nous éloignions de l'Église de Christ. Tu ne veux pas que nous nous éloignions, Seigneur, des fumées. Tu ne veux pas que nous éloignions de la bonne habitude, Seigneur, de rester dans la famille parmi les frères, parce que c'est ici que tu envoies la vie et la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tendre Père, le texte nous propose que la vie vient de toi, c'est toi qui nous donnes la vie. Le texte nous dit, Seigneur Dieu, la vie et la mort c'est ta décision et tu es souverain. Tendre Père, nous avons appris dans le texte, on nous rappelle que nous devons te craindre, nous devons te servir, que rien n'est caché à tes yeux et que tu vas demander des comptes, Seigneur. Mais on nous a rappelé aussi, Seigneur, que bien que autant mauvais que R, ou pire que lui, nous avons été pardonnés pendant que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Tendre Père, nous avons remarqué aussi, Seigneur, que Tamar, qui était rejetée, qui était déconsidérée, qui a vu son malheur, bien qu'on en est mort, mais aussi, Seigneur, qui a amené la progéniture, elle va être la mère de Pérez, et Pérez est aussi dans la progéniture, dans la continuité, dans la lignée du Christ qui venait sur la terre. Ô toi Dieu qui sais récupérer les choses, ô toi Dieu qui sais changer le mal en bien, un mauvais, tu peux le changer, Seigneur, en un saint. Sois loué, sois béni. Fais de nous, Seigneur, au fumesse de gens, non seulement habitués à ta parole, mais préparés à être transformés par ta parole. Bénis ton serviteur qui nous a conduits, Seigneur Dieu. Continue à bénir les fumesses. Bénis la radio. Bénis, Seigneur, nos programmes à l'avenir. Amène-nous à la télévision. Bénis, Seigneur Dieu, ouvre les portes pour le voyage de Belgique, Seigneur, pour la conférence de l'étude biblique là-bas, Seigneur, le camp biblique. Ouvre de nouveaux horizons, Seigneur Dieu, pour que nous ayons tous les moyens nécessaires pour que le fumet, Seigneur, soit équipé, que la technologie, Seigneur, soit très bien avancée, adaptée à l'évolution du temps. Bénis chacun de nous. Console, Seigneur Dieu, ceux qui pleurent. Ouvre des portes, Seigneur Dieu, des armées, à ceux qui les voient fermées. Bénis-nous, Seigneur. Bénis nos enfants, Seigneur Dieu, dans le mariage. Les garçons comme les filles. Qu'il y ait des mariages, pas comme celui de R ou de Onan, mais des mariages bénis et ordonnés par toi. Bénis nos propres mariages, notre vie sexuelle, Seigneur Dieu, dans les foyers, et la vie sexuelle des célibataires, Seigneur, qu'elle soit disciplinée jusqu'à ce que tu amènes, Seigneur, des conjoints. Seigneur Dieu, soutiens-nous, bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur, ouvre des portes, soutiens-nous, Seigneur, et avant que nous nous retrouvions demain, reste avec nous, garde-nous fidèles à toi. Au nom de Jésus-Christ, bénis-nous. Nous avons prié. Amen.
Amen. Peuple de Dieu, que la grâce et la paix abondent dans nos maisons. Allons en paix. Amen.
Amen. Amen.